personnages, trois principaux, tous issus d'origines diverses, mais parvenus à un certain niveau social. Un directeur de radio, un directeur de fabrication dans une petite entreprise de province, et une comédienne qui se reconvertit dans la couture et la vente. Chacun ayant un pouvoir réel sur les autres, mais étant aussi soumis à d'autres pouvoirs tout aussi réels. On les suit comme ça dans les fluctuations de leur vie affective et professionnelle. Ils se croisent, ils disent qu'ils s'aiment, mais ils ne sont jamais heureux. Ils se séparent, et même quand l'occasion s'offre à eux d'être heureux, ils s'arrangent toujours pour aller ailleurs. Bref, un tas de gens, comme on en voit partout, hélas, très mal dans leur peau, très malheureux, ne se demandant jamais en quoi, par hasard, ils pourraient être responsables pour une certaine part de leurs problèmes. À aucun moment, ces personnages ne s'interrogent sur eux-mêmes et sur leurs choix. Ils semblent manipulés par des réflexes, des habitudes de pensée et des craintes en tout genre. Et en effet, ils le sont. Bref, c'est un film formidable. Après les avoir vus s'agiter comme des imbéciles pendant une heure et demie, on est tellement énervé qu'on se met à se disputer entre spectateurs. C'est un bon point pour le culte du malheur et un point encore meilleur pour ma théorie à moi qui est qu'il vaudrait mieux montrer le bonheur et l'intelligence à imiter plutôt que faire un show de tous les comportements malheureux qui existent en foule sur la planète. Moi, j'ai eu envie d'en parler avec Henri Laborite pour qu'il expose sa théorie sur l'inhibition de l'action, parce que c'est très intéressant, et puis pour savoir quelles conclusions il en tire au niveau des comportements et des possibilités de trouver un art de vivre, peut-être. Alors, avant la pratique, d'abord la théorie.
Tout être vivant se trouve situé dans un espace, forcément. Et ce qu'on peut appeler le territoire, d'ailleurs. Et qui varie avec les lieux et les époques. Si ce territoire était vide, il n'aurait aucune raison d'agir. Ça me semble évident. Tout ce que je dis paraît évident. Bon. Donc s'il agit, il agit sur des choses et sur des êtres, sur des objets et des êtres. Alors, quand il agit sur ces objets et ces êtres, où il se fait plaisir avec? Ou c'est douloureux, c'est dangereux. Et il apprend très vite que c'est agréable ou que c'est dangereux. Et si c'est agréable, il va essayer de répéter son action pour retrouver le plaisir qu'il a éprouvé. Si c'est désagréable, il va fuir. Tous les animaux fuient. Mais s'il ne peut pas fuir, ça arrive. À ce moment-là, il va lutter. Il aura ce qu'on appelle une agressivité défensive. Ça lui fait mal ou ça va, c'est pas agréable. Il se défend. Et dans certains cas, la punition dans la défense est tellement importante, l'autre est plus fort. L'ensemble social est plus fort. Alors, il ne peut ni fuir, ni lutter, ni se faire plaisir. Alors, il s'inhibe.
J'ai regardé dans le dictionnaire à inhibition. Inhibition, action d'un fait psychique qui empêche d'autres faits de se produire ou d'arriver à la conscience, état d'impuissance, de paralysie qui en résulte. L'inhibition de l'action, les psys la connaissaient depuis un certain temps. Ils l'appellent le refoulement et c'est très mauvais pour la santé. Henri Laborite l'a mise en évidence sur le plan biologique. Mais nous sommes des incrédules. Saint Thomas a besoin de toucher les plaies, et nous, la science, quand elle confirme ce que nous pensons, nous rassure.
Bien sûr que pour faire une infection, il faut des microbes. Il y a sans doute de nombreux facteurs au concert. Il y a sans doute de nombreuses causes sur lesquelles je ne peux pas m'étendre. Toutes les maladies, ulcères de l'estomac, l'hypertension artérielle, mais tout. Et finalement, englobé par le rapport de l'individu avec son environnement social. Et s'il ne peut pas se faire plaisir, finalement maintenir son équilibre biologique, c'est pas autre chose, se faire plaisir, être bien dans sa peau. À ce moment-là, il tombe malade. Parce que il met en jeu un certain nombre de réactions endocriniennes, enfin, ses glandes à sécrétion interne, de son système nerveux, qui vont perturber son équilibre biologique et en particulier bloquer son système immunitaire. Toute la pathologie entre dans un cadre général qui est celui de la relation de l'individu avec son environnement social.
Bon, alors, je vous résume le topo. J'ai envie de taper sur mon directeur parce que je pense qu'il exagère. N'en faites pas une histoire personnelle, hein, c'est toujours sur les directeurs qu'on a envie de taper, c'est pas leur faute, paraît-il. Mais comme il a le pouvoir, pas question que je lève le petit doigt. Donc, je retourne mon agressivité contre moi et je me rends malade. Ach ! Excusez-moi. Bon, l'inhibition, alors, c'est pas bon. Je cherche toujours comment aller bien malgré tout. Il y a aussi la lutte, nous dit Laborite, exclue quand on n'est pas le plus fort, et il y a la fuite. Lui, il a un faible pour la fuite. Il cite souvent d'ailleurs son livre « L'éloge de la fuite » comme ouvrage de référence. « Le monde est plus fort que vous, alors fuyez, inventez, faites-vous discret ou inventez. Au mieux, réfugiez-vous dans l'imaginaire, dans la création artistique. » Mais, ajoute-t-il, danger parce que, selon lui, la création artistique et la folie vont souvent ensemble. Et là, exemples divers, Van Gogh, Schumann, Edgar Poe, Nietzsche, etc. Neff, les crêpes noires, finalement, il n'y a pas d'issue. Vous me connaissez, je ne pouvais pas m'en tenir là. Le malheur ne passera pas. On ne nous a pas montré dans Mon oncle d'Amérique les vies navrantes de ces personnages uniquement pour nous faire de la peine en nous disant qu'il n'y a pas d'issue quand même.
Avec René, moi, ça ne m'intéressait pas de faire un truc sur ce que j'appelais les tranches de vie. Ça me moque de moi d'ailleurs, parce que moi, j'appelle ça les tranches de vie.
Mais c'est pourtant c'est ce qu'on voit quand on voit le film. On voit l'exemple.
C'est René qui l'a voulu. Mmh. En me disant, on ne peut intéresser les gens qu'en leur parlant d'eux. Mais en fait, c'est les 5 dernières minutes du film qui comptent. Mmh. Les 5 dernières minutes, c'est le Bronx, c'est la ville détruite. Mmh. Et c'est là où ça arrive. C'est à une ville détruite. On voulait la faire sur Carthage, d'ailleurs. Hein, puis on n'a pas eu assez d'argent pour aller filmer à Carthage.
Oh là là, pessimiste, le monsieur. Pas très gai, la théorie. Bon, pour la pratique, je demanderai tout à l'heure à Henri Laborite ce qu'il préconise.
Pour ce champ pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, meu jeito, pague pelo prazer de chorar e pelo estamos aí. A piada no bar e o futebol pra aplaudir, um crime pra comentar e um samba pra distrair. Perdi, pague por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa, fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, Miss e Gibi. Deus me pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de graça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus me pague por mais um dia agonia pra suportar e assistir. Pelo rangido dos dentes, pela cidade azul. Thank you.
Je récapitule très vite. Alors face au pouvoir, selon Henri Laborite, nous pouvons réagir par la lutte, la fuite ou l'inhibition. La lutte, pas question quand on n'est pas le plus fort. L'inhibition, très mauvais, ça donne des maladies psychosomatiques. Et la fuite, soit île déserte, soit imagination et création, un peu mieux, mais pas terrible quand même, celle-ci étant, selon Henri Laborite, souvent voisine de la folie. Comme j'ai déjà essayé et l'île déserte et la création, je pense pas que celle-ci soit obligatoirement jumelle de la folie. Ou alors, je ne m'en suis pas encore aperçue, je compte sur vous pour me prévenir si vous en sentez les premiers symptômes. Moi, je pense que c'est pas la création qui est voisine de la folie, mais la névrose ajoutée à une extrême sensibilité et à la possibilité de l'exprimer. Et je pense aussi que la névrose handicape la liberté créative au lieu de la stimuler. Par exemple, ce n'est pas le déséquilibre mental de Woody Allen qui fait son art et son originalité, mais plutôt le regard sain et ironique qu'il porte sur lui. C'est pour ça que je crois qu'on peut quand même tenter d'améliorer sa situation en faisant un petit examen mental, question d'identifier ces fameux automatismes acquis pendant l'apprentissage et de faire un tri plus clair entre nos propres aliénations et celles qui nous sont imposées. Ensuite, avec l'imagination et la création, reste à trouver la place qui nous convient dans cette société, pas facile, quitte à la créer quand elle n'existe pas, ce que font en effet la plupart des artistes. Enfin, moi, c'est une des réflexions que m'a inspiré le film de René, mon oncle d'Amérique. Et c'est pour ça que j'ai voulu en reparler avec Henri Laborite.
De toute façon, c'était pas fait pour que les gens sortent de là, comme c'est arrivé souvent, en disant, tiens, j'ai compris pourquoi je suis hyper tendu, pourquoi j'ai un ulcère d'estomac. C'est pas ça, un ulcère d'estomac de contemporain, je m'en fous. Disons, moi, non. C'est vrai.
Je crois pas du tout.
Et pourquoi?
Parce que si on vit dans un monde où les individus souffrent, sont eux-mêmes malheureux dans leur propre vie, on ne peut pas vivre en harmonie avec eux, c'est évident.
Vous en foutez pas. Bien. J'accepte, oui, si vous voulez, j'accepte cette vision, quoique, qu'est-ce que je peux y faire?
Par exemple, le dire, et aider les individus à prendre conscience aussi de leur situation individuelle.
Pour me faciliter le boulot, oui, parce que je suis très égoïste. Et que je, si les autres savent, ce sera peut-être plus facile d'abord de communiquer avec eux, puis en plus de m'entendre avec eux.
Au fond, moi, il n'y a qu'une question qui m'intéresse vraiment dans la vie, c'est comment faire pour vivre en harmonie. C'est la question que j'ai posée à notre grand gourou scientifique, en espérant qu'il pourrait m'y aider. En quoi ses connaissances lui servent-elles pour trouver un meilleur art de vivre ? Moi, je n'ai pas trouvé ma réponse, mais vous, peut-être.
Pensez qu'on vous demande pour conduire une voiture, on vous demande de passer un permis de conduire, mais on ne vous a jamais demandé un permis pour conduire un instrument, une machine, horriblement plus compliqué, qui est votre cerveau, et vous-même. Or ça, il n'y a pas besoin de tout savoir sur un niveau d'organisation très fin, par exemple. Il suffit d'avoir cette notion qu'il y a des niveaux d'organisation et que quand vous avez un rapport, quand vous entrez en rapport avec un autre, c'est pas simplement votre langage qui va s'échanger, vous allez avoir, vu que nous sommes ensemble, l'un et l'autre, tout notre équilibre biologique est changé. Hein? Nos glandes ne fonctionnent plus de la même façon. Tout est transformé. Alors, il ne s'agit pas de savoir en quoi c'est transformé, mais se douter que cette transformation va pouvoir influencer et vos jugements, et votre façon de vivre, etc.
Est-ce qu'on a une chance d'échapper à cette espèce de système dans lequel on est pris, finalement? On reçoit un apprentissage, on le reproduit, nous avons un cerveau primitif qui nous dicte un certain nombre de nos conduites. Est-ce qu'on peut progressivement gagner du terrain sur tout ça et par conséquent vivre en obéissant à d'autres règles qu'on aurait peut-être un peu plus choisies, en étant, je ne sais pas, plus conscient de soi-même?
Je pense, seulement, c'est pas, ça sera très lent.
Oui.
Faut pas être pressé.
Faut être pressé,
on va mourir. Il y a 12 000 ans que ça dure, et ça ne peut changer qu'avec la connaissance.
Qu'est-ce que vous avez appris, vous, dans votre vie?
Ce que j'ai appris.
Oui. Qu'est-ce que vous avez très peu de choses à transmettre à quelqu'un? Qu'est-ce que vous pensez indispensable de lui transmettre.
J'ai appris à faire l'amour, d'abord. Ça, c'est quand même important.
C'est-à-dire ?
C'est un sacré apprentissage. C'est une technologie. L'homme a de l'imagination, justement. C'est ce qui lui permet de...
Comment ça, c'est une technologie ?
Comment ?
Comment ça, c'est une technologie ?
Bah, l'homme ne fait pas... Puisque vous me poussez dans ses retranchements, que je n'aurais pas abordé sans vous...
Je ne vous ai pas poussé. C'est vous qui avez dit que c'est la première chose que vous avez citée. Je vous ai demandé, oui. Qu'est-ce que vous avez appris ? Vous m'avez dit, j'ai appris à faire l'amour. Je ne vous ai pas poussé.
Oui, c'est vrai, bon, d'accord, vous avez raison.
C'est que vous estimez que ça a une importance...
Ah, fondamentale, bien sûr. Bah, les animaux le font d'une façon très... très, comment dirais-je, stéréotypée. Enfin, ils n'y mettent pas beaucoup d'imagination, alors que l'homme met beaucoup d'imagination et crée des tas de choses. Il en crée chaque jour, à chaque fois qu'il le fait, d'ailleurs, il y a quelque chose de nouveau. Enfin, donc... j'ai appris ça. Et je pense que tout tourne autour de ça. Je ne suis pas tellement freudien pour beaucoup d'autres choses, mais je pense que les trois pulsions fondamentales étant celles qui amènent à survivre, boire, manger et copuler, boire, manger dans nos... Bien sûr que ce n'est pas planétaire, mais enfin dans nos régions en général, on arrive à survivre... par le boire et le manger. Les lois sociales viennent en aide si vraiment vous n'avez plus le moyen de le faire. Et il reste donc que la pulsion sexuelle, et cette pulsion sexuelle, effectivement, elle domine toute la vie humaine et toute la vie des espèces, d'ailleurs. Mais elle est transformée par la socioculture. C'est-à-dire qu'on vous apprend, depuis le plus jeune âge, comment il faut vous comporter dans cette orientation, si j'ose dire. Et là encore, il n'y a que l'imagination qui vous permette de sortir des schémas préconçus, des règles inscrites dans la socioculture à laquelle vous appartenez. Donc ce que j'ai appris, c'est ça, c'est à me servir de mon imaginaire. Vous me demandez maintenant, et ça, je voudrais bien me faire comprendre, si j'ai abordé ce sujet, c'est que c'est celui de tout homme. Mais il est camouflé. On en a beaucoup voulu à Freud de l'avoir mis en exergue, d'avoir dit c'est ça fondamentalement. Et il avait raison. Actuellement, personnellement, je le retrouve, si vous voulez, sur le plan de la neurophysiologie, de la biochimie même. Bah oui. Seulement, c'est tellement camouflé par un langage, par des explications, par... Et ensuite, par toute une culture où il ne fallait pas en parler. Hein, c'était bon. Alors que ça motivait toutes les actions humaines. Ça motive toutes les actions humaines. À partir du moment où un enfant a fait son schéma corporel, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est seulement sa peau. Parce que quand il naît, il est dans son... Le psychiatre appelle son moi tout, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait, il n'a pas encore appris. Ça prend aussi ça. Il n'a pas encore appris que le monde qui l'entourait n'était pas lui. Et... À partir du moment où il a découvert que le monde qui était autour de lui ne lui obéissait pas obligatoirement, et que ce qu'il pouvait imaginer être conforme à son plaisir, le monde lui refusait, il s'aperçoit qu'il est tout seul dans sa peau, et il essaie de retrouver inconsciemment, c'est ça ce que Freud appelait d'ailleurs le narcissisme primaire, que nous exprimons assez différemment sur le plan neurophysiologique et même biochimique, et à savoir que à partir de ce moment-là, il va se trouver tout seul et angoissé, parce que quand on est seul, alors il veut trouver l'autre d'abord c'est la mère. Alors il voudrait bien retrouver la mère, et puis la mère, elle est entre les mains du père, et elle s'occupe des petits frères, des petites sœurs, etc. Bon, il sait pas, lui, que... Mais il voit son objet qui gratifiant, la chose qui lui faisait plaisir, à laquelle son plaisir était lié, qui est partagé par d'autres, il veut le récupérer. La notion de propriété apparaît à ce moment-là. Il a un enfant qui vient de naître, il ne sait pas ce que c'est que la propriété. Le monde lui appartient, il est le monde, il est l'univers. Bien. Puis à partir du moment où il est séparé, il devient narcissique, c'est-à-dire qu'il veut récupérer l'autre dans son moi tout plus originel. Et alors il est à la recherche de l'autre, et l'amour sexuel, effectivement, la pulsion sexuelle, elle fait partie de ça. Elle fait partie de cette recherche de l'autre, qui n'est jamais finie.
Bon, alors je suis un enfant, vous savez que ce que vous allez me dire va s'imprimer très fortement. Qu'est-ce que vous allez me dire pour ma vie ? Quel bagage, qu'est-ce que vous allez mettre dans ma valise ?
Je vais vous dire. Oui. J'ai rien à dire aux autres. Bon. J'ai à les prendre.
C'est une pirouette.
Comment ?
C'est une pirouette.
C'est pas tellement une pirouette, c'est... Je voudrais réintroduire les autres dans mon mois de tout. Je voudrais vous réintroduire dans mon mois de tout.
Oh non, non. Est-ce que les réponses d'Henri Laborit ont rempli votre valise pour mieux vous débrouiller dans la vie ? Est-ce qu'il a répondu aux questions que vous vous posiez, ça ? La suite de notre feuilleton sur l'art de vivre, la semaine prochaine, avec Jean Delumeau, historien, professeur au Collège de France, qui vient d'écrire un ouvrage de 1000 pages qui se lit comme un roman d'aventure sur la peur, le péché et la surculpabilisation en Occident.